Nous sommes toujours avec Sœur Marie-Noël, supérieure du petit couvent à Lourdes. Nous découvrons aujourd'hui l'histoire de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Notre-Dame de Lourdes et l'histoire de ce lieu.
Alors, la maison a évolué au fil du temps et la communauté a grossi aussi très vite.
Beaucoup de ça, beaucoup de vocations. Alors, elle a construit l'autre aile. Et puis après, c'était la maison mère. Elle est toujours maison mère. Mais les maisons mères qui naissaient à cette époque prenaient tous les modèles des maisons de cloître. C'était toujours des maisons, d'un côté les maisons pour l'activité et derrière la maison pour les sœurs. Or, ici, impossible. On était toujours en contact avec les gens, parce qu'à cette époque, quand même, la vie religieuse, même qu'on l'appelait apostolique, elle était un peu retirée quand même du monde. Mais là, on était toujours en contact, petit couvent. Donc, la communauté a vite très grandi et elles ont construit le grand couvent qui est au-dessus, avec l'aide d'un comte polonais. C'est pour ça que cette maison a un style un peu à château, parce que c'est lui qui a choisi le modèle.
Donc, dans le grand couvent, vivaient plutôt des sœurs qui avaient plutôt une vie contemplative. Et ici, au petit couvent, c'était une vie vraiment ouverte aux gens qui passaient à Lourdes, aux pèlerins et à toutes les personnes qui avaient besoin, c'est ça?
Exactement. Devant, il y avait aussi l'accueil, mais derrière, les sœurs vivaient un petit peu en contemplatif, comme vous dites. Il y avait l'adoration en permanence, très, très solennelle d'ailleurs. Beaucoup de pèlerins venaient voir quand les sœurs faisaient l'adoration, parce que c'était très touchant quand elles rentrent, quand elles sortaient. C'était tout un cérémonial et c'était de l'époque.
À cette époque-là, qui était la mère supérieure?
Alors, elles se sont suivies, les supérieures générales. La deuxième supérieure générale, elle était de Ségus, une femme absolument merveilleuse qui a vraiment donné la ligne à cette congrégation. Et nous avons beaucoup d'amour pour cette femme, mère Pélagie. Et c'est une femme qui a su donner un élan à cette congrégation. Parce qu'après, très vite, les sœurs sont parties aussi dans les petits villages, pour enseigner dans les écoles.
Il y avait aussi cette vocation missionnaire en Bigorre. Voilà. C'est-à-dire, la vocation au sanctuaire de Lourdes n'était pas la seule vocation de votre congrégation.
Non, les sœurs sont parties très vite. Elles étaient vers Auch, elles étaient dans les Hautes-Pyrénées, et des petites écoles, des paroisses qu'elles tenaient. Et puis, avec la séparation de l'église, elles ont dû se retirer. Mais à ce moment, on a eu une ouverture, une demande pour l'Argentine. Et les sœurs sont parties, les premières sœurs françaises sont parties en Argentine en bateau, évidemment, à l'époque, vous imaginez les voyages. Et elles sont arrivées, ne connaissaient ni la langue, ni rien, mais on les voulait là-bas.
C'était en quelle année ?
En 1900.
En 1900. Donc en 1900, il y a des femmes religieuses de la Bigorre qui sont parties missionnaires en Argentine, où la congrégation vit encore aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Et après de là, elles sont parties au Chili. Et une autre personne est venue demander des sœurs pour le Brésil. Et là, je pense, une dizaine d'années après, des sœurs sont parties au Brésil. Qui est maintenant, c'est le plus grand nombre de nos sœurs sont au Brésil aujourd'hui, sont des Brésiliennes. Voilà. Le petit couvent, on continue quand même dans l'esprit de la mère, parce que la mère disait, il faut accueillir les gens pour donner l'opportunité ou l'ambiance pour faire un pèlerinage. Un pèlerinage, c'est une expérience spirituelle. Nous disons toujours, on ne vient pas à Lourdes pour tout faire et pour tout regarder. Lourdes, c'est souvent, c'est pour ça que nous avons gardé ça. Nous accueillons les gens pour un minimum de 3 nuits. Parce que si c'est une seule nuit, évidemment, au niveau commercial, mais ce n'est pas notre but. Nous devons vraiment rester dans cet esprit, favoriser cette démarche spirituelle. Alors, il faut un minimum de 3 nuits. Un minimum pour que cette expérience spirituelle puisse se faire à Lourdes.
Donc les gens qui vous contactent, ils viennent ici, ils ne posent pas seulement leurs valises, hein, ils posent une partie d'eux-mêmes ici, oui, au petit couvent, et le lieu que nous visiterons tout à l'heure, il s'y prête vraiment, c'est qu'on se pose, on se repose, tout près de la Sainte Vierge, tout près de la grotte, et vous, vous les accompagnez. Et pas seulement dans l'accueil logistique, hein. Il y a un vrai accueil pastoral. Absolument. On peut dire pastoral, c'est
ça? Oui, je pense que oui. Parce qu'en plus, nous faisons un accueil individuel. On ne veut pas accueillir des groupes avec un chef de groupe. Et on leur donne juste à manger les chambres. Non, chaque personne est accueillie. Et chaque personne, on entend de parler avec les gens. Et puis aussi des gens qui viennent avec nous à la chapelle pour prier, partager notre prière. Mais après, il y a des amitiés qui se lient, ça devient une immense famille. Mais nous avons des gens qui viennent depuis des années, des années, des années, les mêmes gens. Puis après, les gens le disent les uns aux autres. Et il y a une très, très belle amitié qui se lie, même entre les gens. Entre les gens, il y a une ambiance très belle qui se fait parce que tout d'un coup, les gens prennent le temps de s'écouter, oui, de se parler. Et je pense que c'est ça qui manque beaucoup aujourd'hui dans ce monde où tout le monde court. Non, là, les gens se parlent. Et voilà.
Vous pouvez accueillir combien de personnes ici en même temps?
Mais vous savez, c'est difficile à dire parce que nous avons pas mal de chambres à deux lits, mais souvent sont prises par une seule personne. Parce qu'on ne va pas mettre des étrangers ensemble. C'est inadmissible. Et si les gens veulent être seuls, on leur donne les chambres seules. Il n'y a aucun problème. Donc, parfois, on arrive à, disons, une moyenne de 45. Mais cette année, c'est très particulier. C'est bien en dessous.
J'ai vu quelques personnes en arrivant. Oui. Petit à petit, vous accueillez à nouveau. Nous, oui, sommes... au cours du mois de juillet. Donc, oui, il y a des pèlerins quand même qui viennent. Pas des groupes, mais des individuels qui viennent.
Nous n'accueillons jamais de groupe, c'est des individuels et tous ces gens que vous avez vus sont des habitués, qu'on connaît depuis longtemps, qui viennent chaque année. Maintenant, nous avons un accueil jeune, mais cette année, il n'y a personne. Et là, on a deux bâtiments, un bâtiment pour les filles, un bâtiment pour les garçons. Ils ont leur salle à manger, de façon que le silence reste dans la maison. C'est tellement appréciable, les gens qui trouvent le silence ici. Et les jeunes sont entre eux. Et c'est très important de ne pas mélanger les groupes de jeunes. Parce que ceux qui amènent les groupes les accompagnent avant et après. Mais s'il y a des groupes qui se mélangent, les jeunes vont faire connaissance avec l'un et l'autre. Ils vont déserter leur propre groupe. Et ça devient plus difficile pour ceux qui guident ces groupes de suivre une ligne, n'est-ce pas?
Sœur Marie-Noëlle, donc vous êtes la supérieure de ce petit couvent où vit une petite communauté. Hein, vous êtes actuellement trois sœurs. Depuis quand êtes-vous là, Sœur Marie-Noëlle?
Je ne sais plus, je crois que c'est 35 ans.
35 ans que vous êtes au petit couvent?
Oui, imaginez, c'est incroyable. Je ne compte même plus les années. Je suis là, je l'aime et j'essaie de... Bon, qu'il soit beau, qu'il continue dans cet esprit, tout. Voilà.
Qu'est-ce que ce lieu représente pour vous? Quand vous en parlez, vous avez une émotion sur le visage. J'aimerais bien que vous essayiez de trouver des mots pour nous en parler. Qu'est-ce que cette maison dans laquelle vous avez aussi accompagné vous-même des travaux, qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
C'est très difficile à dire quand on aime quelque chose. Comment exprimer ça? Je pense que cette maison où a jailli vraiment... où est né l'esprit de la congrégation. Le charisme découvert, le charisme, vraiment le charisme, a ce privilège d'être à côté de la grotte et l'accueil qui est une merveille, cet accueil individuel, puisque vous avez ce contact avec les gens du monde entier, je dirais. Et je l'aime, ce petit couvent, c'est vrai, vous avez raison, je l'aime beaucoup. Mais j'ai investi beaucoup, mais je ne suis pas seule. Les sœurs qui sont avec moi aussi, on est ensemble. On construit ensemble, on est ensemble. Mais c'est vrai. Et quand vous avez le retour des gens, quand ils parlent du petit couvent, ben ça vous fait chaud au cœur.
Alors, en préparant cette émission en aparté, on parlait, pour tout dire aux auditeurs, hein, pas de secret avec les auditeurs, on parlait ensemble de la communauté religieuse. Et je vous ai demandé, mais alors vous êtes la supérieure? Vous m'avez dit, oh mais non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que je vois les choses. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous voyez les choses?
Voilà, je me dis qu'aujourd'hui, on est toutes des adultes. On est des femmes, on n'est pas des enfants, on est des femmes consacrées, chacune avec son caractère, c'est vrai, avec sa culture, mais on fait un ensemble. On est un ensemble, parce que quand on dit supérieur, c'est vrai, c'est elle qui va signer certaines choses comme ça, mais les décisions sont prises entre nous, les femmes adultes, et on voit ensemble comment on peut faire ceci, cela, et c'est beau de vivre en adulte, hein, de partager en adulte, on est sur la même trajectoire et on porte le même amour.
On sent à travers vos mots que la vocation de la congrégation est visiblement toujours la même. Hein. Vous avez gardé évidemment le charisme, mais on sent que la vision, la manière de vivre aussi dans le monde, votre mission et votre vocation, elle évolue. On a ce sentiment-là que vous n'êtes pas figé à l'époque où la congrégation est née, il y a 150 ans. Vous êtes vraiment dans l'esprit du monde aujourd'hui, tout en gardant votre charisme. Et ça, ce n'est pas une combinaison facile à faire.
Bah, je vois, peut-être je ne me rends même pas compte de ce que vous me dites. C'est tellement naturel. Hein? Je pense que c'est naturel.
Les pèlerins vous aident à ça, certainement, en vous apportant, leur vie, la vie du monde.
Mais c'est clair, quand on reçoit toutes les souffrances, les confidences des gens, parce que les gens portent parfois énormément de poids. Alors, franchement dit, je me dis, mais nous sommes des privilégiés. Entre nous, les sœurs, on se dit, mais vous rendez compte, nous sommes des privilégiés. Quand tu vois ce que les gens portent, Et nous, on est privilégiés quand même.
En fait, vous recevez ici quand même une partie de la souffrance du monde. Les gens, ils arrivent avec leur fardeau à Lourdes et donc certainement aussi ici au petit couvent.
Sûrement, sûrement. Lourdes est vraiment le refuge de ceux qui sont en souffrance. Ça, je suis persuadée. Et puis c'est pour ça, c'est tellement important que chaque personne soit accueillie. Que les gens trouvent de l'espace pour se parler, pour nous parler aussi. À l'une, à l'autre. Oui, effectivement. Et sinon, nous serions très frustrés si ce serait autrement.
Alors, est-ce qu'on va la visiter, cette maison?
On y va.
On y va. Allez, go.